On va l'analyser, on va regarder un petit peu tout ça, réaction un petit peu à chaud, parce qu'on est le 16 mars 2026 au moment où je vous parle, tous les résultats ne sont pas forcément arrêtés, mais c'est là où vous allez retrouver du juste milieu, j'espère, comme vous l'aimez, parce que, justement, on va regarder tout ça, mais en dehors du prisme des simples résultats, si j'ose dire. On n'est qu'au premier tour, donc il va y avoir encore beaucoup d'accords, beaucoup de désaccords, d'alliances, pas d'alliances. On rappelle que les partis ont jusqu'au 17 mars au soir pour officialiser le maintien de leur liste au second tour ou pour officialiser des alliances. Donc on va parler évidemment de cet immense club échangiste que sont devenus les municipales et que deviennent toute élection hors présidentielle lorsqu'il s'agit de garder son poste et du pognon. Donc on va décrypter tout ça évidemment. Mais je tiens à vous dire que ça ne va pas être une analyse à chaud de tel ou tel résultat. C'est pas ça qui est intéressant. Les élections municipales envoient un gros message vraiment cette année et qui en dit long sur la réalité de la politique française. Donc je vais essayer de vous proposer ça, d'avoir votre point de vue là-dessus et vous proposer une analyse un petit peu différente, je l'espère. Alors, on va prendre les résultats du Parisien d'aujourd'hui pour commenter un peu rapidos ce qu'on a eu dans certaines villes, avec des résultats qui peuvent sembler marquants, et parmi les quelques enseignements qu'on peut en tirer d'ores et déjà, on a cet enseignement de la bulle dans laquelle on est, et c'est le premier truc que je voulais vous dire quand même, parce que ça nous remet quand même le cervelet en place, ça nous met un peu le cervelet en place de la bulle dans laquelle on évolue, que ce soit dans les médias alternatifs, on va dire dans la sphère alternative, on évolue quand même dans une bulle. Et on comprend avec certains résultats des municipales qu'on est loin, très loin, d'être l'opinion dominante. Je prends les résultats de certaines villes, vous allez voir ce que je veux dire par là. Tu prends Le Havre. Donc Le Havre, le maire sortant, c'est Édouard Philippe, donc Fantomas. Vraiment, tu te dis, le mec est détesté et détestable. Comment ce mec-là peut faire quelque chose encore dans la politique française, tu vois? Eh bien, Le Havre, vous avez un Édouard Philippe qui s'en sort très très bien. Regardez les résultats. Hein. Je vous prends ceux du Parisien qui sont un peu mieux découpés. Édouard Philippe fait 43,76% au premier tour. Donc source du ministère de l'Intérieur. Il devance le PCF Jean-Paul Lecoq et UDR Franck Keller. Rendez-vous compte, Édouard Philippe, pour moi, c'est véritablement Fantomas, c'est le méchant du film, c'est Monsieur Patate. Il a paumé les sourcils, il a paumé les cheveux, mais il n'a pas paumé les occasions de prendre du pognon et de faire des dingueries. Édouard Philippe, il a de sérieuses casseroles, y compris à la mairie du Havre. Il y avait eu des festivités concernant l'anniversaire de la ville, je crois que c'est les 200 ans, quelque chose comme ça. Le budget avait explosé, Édouard Philippe avait fait péter le budget. Il y avait des appels d'offres illégaux où il était allé solliciter des sociétés dirigées par des amis à lui, mais des trucs délirants, et ça gagne. Vous avez aussi à Nantes, les résultats à Nantes, avec la maire sortante, je vais vous montrer, hop, les résultats, ou pareil, tu te dis Nantes, si t'écoutes ce qu'on peut dire dans certains médias alternatifs, dans un discours un peu plus dissident, tu te dis Nantes, c'est devenu plus ou moins Kaboul. Il y a de la dangerosité, il y a de la hausse de la violence, tout ce que vous voulez. Eh ben, la socialiste Johanna Roland en tête, à 35,24%. Tu prends Paris, on va revenir en détail sur Paris, évidemment. Vous prenez Paris, eh ben, tu te retrouves avec le mec qui sort de l'équipe d'Anne Hidalgo en tête. Emmanuel Grégoire se retrouve en tête à Paris. Donc, quand je parle de bulle, alors on pourrait le découper à plein d'endroits, hein, parce que vraiment, il y en a beaucoup comme ça. Et c'est assez passionnant de regarder les résultats pour ce qu'ils sont, de pas tout de suite chercher à dire « Oui, alors ils veulent faire taire telle ou telle partie, je sais pas quoi. » Ne rentrons pas dans des logiques d'appareil, parce qu'on va voir à quel point c'est néfaste, toute leur connerie. Mais ben, ces résultats nous rappellent que on est loin d'une sorte d'opinion dominante, et que ce qu'on dénonce à longueur de journée, les scandales et compagnie, eh ben en fait, ça choque pas grand monde. Ça choque pas grand monde, et je peux vous dire qu'on a un travail, entre guillemets, pas de pédagogie, parce que c'est pas à nous de réveiller les esprits ou je ne sais quoi, mais il y a un travail de débat, petit à petit, pour faire prendre conscience aux gens de ce type de scandale, ce type d'affaires que peuvent avoir certains candidats, ou qui sont de première importance, quoi. Donc j'ai halluciné ce matin avec certains résultats en me disant c'est pas si évident que ça, tu vois, c'est pas si évident. Ce qui nous scandalise peut sembler tout à fait normal à d'autres personnes, tu vois. Donc c'est l'un des premiers enseignements que j'ai retrouvé. Alors après, dans certaines villes, hein, grosso merdo, on a par exemple Marseille, Benoît Payan, donc le candidat de gauche, maire sortant, qui finit à 35,84, juste devant le RN à 34,68, Sébastien Delogu à 14,40. Hein. Donc lui, dans sa tête, il a dit « j'ai gagné, j'ai fait 1440 ». On a dit « non, Sébastien, t'as perdu en fait, t'inquiète pas ». Il n'avait pas vu la virgule. Oh, le naze. Donc, on a François Bayrou. Là encore, quand je vous parle de résultats qui mettent quand même une petite claque derrière la nuque, François Bayrou sort en tête à Pau. 33,83%. Après l'affaire Betaram. Et l'affaire Betaram, qui est un scandale local, juste à côté de Pau. Donc, c'est assez impressionnant de voir ça. Je le dis pas pour pousser au défaitisme en disant notre travail sert à rien, c'est pas du tout ça. Merci à mon Laurent Watteau pour le sub 45 à moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est restons vigilants, restons prudents, on garde la tête froide, parce que ce qu'on répète à longueur de journée, c'est loin d'être une évidence pour tout le monde. Donc il faut continuer à travailler, à ferrailler, à faire un travail sérieux pour petit à petit faire en sorte que les gens percutent. Parce que là, moi, Bayrou à 33%, j'ai halluciné. Vraiment, j'ai halluciné. Après le scandale Betaram, je le rappelle, scandale local. Donc c'est même pas une casserole qu'il aurait pu avoir en tant que Premier ministre. Non, non, à Pau, il a fait de la merde. Donc c'est assez fou. On peut prendre Nice, on se retrouve avec Eric Ciotti, la boule de billard à 43,4, devant Estrosi à 30,9. Estrosi qui est quand même en pleine affaire de la tête de porc, alors je parle pas de lui, la tête de porc qui a été retrouvée sur le portail de sa baraque, aujourd'hui rien ne dit que ça n'était pas une manipulation pour attirer les médias pour lui, pour le défendre. C'est un truc de dingo. Estrosi a potentiellement, là, la justice va faire son travail, attention, hein. Estrosi a potentiellement missionné des types pour faire accrocher une tête de porc sur son portail avec une photo de lui avec écrit « connard », donc au moins il n'y aurait pas eu diffamation, et une étoile de David. Donc il y a une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme. Attention, il faut être prudent, l'enquête est en cours, hein, donc voilà. Mais j'ai halluciné, et le mec candidate normal, tu vois. Et Estrosi, qui n'est jamais à une saloperie près, il a appelé à une union avec les partis de gauche. dont la France Insoumise, pour battre Éric Ciotti. Enfin, vraiment, c'est baron noir. Quoi. C'est vraiment baron noir. Mais on y viendra sur ces logiques-là d'appareil. Donc bref, je ne vais pas vous faire toute la France. On a des résultats intéressants un peu de partout. Je vous ai parlé de Nantes. À Biarritz, on en parlait. Serge Blanco est premier, l'ancien rugbyman, à 26,68. Et la liste d'hiver droite qui arrive deuxième à 26,60. Donc c'est très 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 serré dans certaines villes. À Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudenc arrive premier devant le candidat LFI François Picmal à 27,39. Nîmes, j'aime bien Nîmes. Bon ben c'est le RN, Julien Sanchez, l'ancien maire de Beaucaire, l'un des premiers maires Rassemblement National d'ailleurs, à 30,39 devant Vincent Bouger, candidat de la gauche à 30,05. C'est très serré, bref. On va pas découper les résultats complets. Les résultats parmi les plus intéressants, parce qu'on nous a parlé que de ça, ça aussi c'est une problématique, je vais y venir dans l'analyse un peu plus générale, c'est Paris, évidemment. Alors Paris, on va regarder les résultats précis des municipales, parce que ça fait jaser, je peux te dire, ça fait jaser. À Paris, regardons un peu ce que ça donne sur les résultats définitifs. Je vous le disais, Emmanuel Grégoire, qui sort de l'équipe Hidalgo, qui finit à 37,98, Rachida Dati à 25,46, Sofia Chikirou à 11,72, Pierre-Yves Bournazel, candidat Horizon. Hein, je veux dire, Édouard Philippe, il a appelé son parti Horizon alors qu'il n'en a pas lui-même pour ses cheveux. Hein, c'est bluffant. Hein. Et quatrième, Sarah Knafo avec 10,40. Qu'est-ce que je raconte ? Cinquième, Sarah Knafo. Et sixième, Thierry Mariani avec 1,61. Voilà, donc merci Thierry d'être passé. C'était adorable. Donc, sur Paris, on en reparlera dans la farce tranquille. Je détaillerai un petit peu plus ce soir. Je veux vraiment aller au fond de l'analyse et de ce que ça peut dire, à mon avis, de manière générale. En vérité, Sarah Knafo prend une branlée. Je ne vais pas vous mentir, elle prend une branlée avec un tel déploiement médiatique. Elle finit derrière Sophia Chikirou, la candidate LFI, où vraiment, elle a fait campagne avec 3 snaps, 2 insultes à des journalistes. Elle a payé un coup d'apéro à tout le monde et elle finit devant. Donc pour Sarah Knafo, c'est quand même une volée. On voit que le déploiement médiatique ne suffit pas tout le temps. Et aujourd'hui, Sarah Knafo, qui se dépeint un petit peu comme la candidate anti-système, qui dérange, qui dénote, elle en est à supplier Rachida Dati, donc le croisement entre Scheherazade et Bernard Madoff. Knafo en est à supplier Dati de faire une union. Donc Knafo, l'anti-système, en est à supplier une macroniste mise en examen pour corruption passive. Waouh! Ça part de loin. Ça part de très très loin. Je pense que Rachida Dati va l'envoyer se faire foutre, parce que là, vraiment, Knafo est en train de mendier un poste. Mais pour autant, je reste... Alors, je suis dans un biais de confirmation, attention, c'est purement subjectif, mais je reste persuadé que ma théorie sur Sarah Knafo continue de tenir. Et je pense sincèrement que on va voir ce qui se passe au second tour, on va voir comment ça se débloque, mais je pense que Sarah Knafo va nous jouer la carte du trumpisme en vue de 2027. C'est-à-dire, elle va nous expliquer « Le système veut nous faire taire, on dérange, regardez, on nous rejette, on nous machin, on nous bidule. » Et je pense qu'ils vont jouer cette carte-là pour 2027. Je reste persuadé qu'elle est un pion central de l'échiquier et que cette élection à Paris n'a jamais été le but premier. Ça lui a fait un tremplin médiatique de fou. Aujourd'hui, Éric Zemmour, on dirait un sugar daddy qui a des demi-molles à la maison en gardant les gosses. Et Knafo a pris une place énorme parce que les médias lui ont donné. Mais à l'échelle de Paris, l'escroquerie n'est pas passée. À l'échelle de la France, on en reparlera. Parce que le discours porté par Sarah Knafo, est-ce qu'il séduit plus les Parisiens que les gens de province, on va dire, comme le RN séduisait à une époque? Je crois sérieusement, en tout cas je continue à croire à ma théorie, on verra, à partir du moment où je sentirai que je me plante vraiment, je vous le dirai, et puis on en rira, puis vous vous foutrez de ma gueule et ça ira très bien. C'est pas une volonté de pas lâcher le morceau, attention, je vous parle pas d'échec en 5D, coup de billard en 4DX, on verra, mais je reste plutôt persuadé de ça. Donc voilà un petit peu pour les résultats de manière globale, comment on peut le découper. Maintenant j'aimerais passer à l'analyse un peu plus dans les détails de ce que les médias ne mettent pas trop en avant et de pourquoi ces élections confirment la destruction de la vie politique française. C'est-à-dire que l'abstention en hausse, ça vous en avez entendu parler, on serait entre 42 et 44%. On rappelle qu'en 2020, donc c'était en plein pendant le Covid, hein, le fameux premier tour de « il y a le gros virus de la mort qui tue, mais allez voter ». Eh bien, il y avait eu quand même une abstention de 55,3%. Et sinon, en 2014, c'était 36,5% et en 2008, 33,5%. Donc, on a une abstention record, c'est la deuxième plus haute derrière 2020, forcément. Et le point que je voulais mettre en avant, c'est que, comme d'hab, on a des médias qui vont culpabiliser les citoyens en nous disant « c'est n'importe quoi, les gens vont pas voter ». On va nous dire, une fois de plus, que les citoyens se désintéressent de la politique. Je vous dis pas non, évidemment. Mais moi, je commence à être persuadé que ce sont les politiciens qui se désintéressent de la politique. Parce que regardez ce que sont devenues les municipales. C'est-à-dire qu'on nous a parlé que des têtes d'affiche. Donc Knafo à Paris, Jean-Michel Aulas à Lyon, Pierre Urmic à Bordeaux, tous ces gens-là. On nous a parlé des grosses têtes dans les grosses villes. Mais la France périphérique, comme dirait Christophe Guilluy, tout le monde s'en branle. Et les médias n'en ont absolument pas parlé. C'est devenu, les municipales sont devenues un tremplin politique pour prendre la mesure comme une dernière répétition avant les présidentielles et avant des échéances qui pèsent un petit peu plus. On se retrouve avec des électeurs qui sont désintéressés parce qu'on les désintéresse. On parle pas vraiment des enjeux locaux. On a parlé que de Paris. Mais à part les Parisiens, qui en a quelque chose à branler de la maire de Paris. C'est assez effrayant. Et les grosses têtes jouent leur stature nationale avec les municipales. C'est devenu une répétition, c'est devenu une scène où ils se montrent, ils sont contents comme tout, mais les enjeux locaux, pas certain que ce soit la priorité. Donc on se retrouve aujourd'hui avec des trucs parfaitement baroques, comme d'hab, des alliances dans tous les sens. Le nouveau Front Populaire à côté, c'était un ensemble de convictions, tu vois. Le nouveau Front Populaire, qu'on nous a sorti aux législatives, donc cette escroquerie, je vous en parle souvent, hein, des partis de gauche qui se sont alliés pour gagner des postes aux législatives, prendre du pognon, parce qu'il y a énormément de subventions publiques par député, par an, pour financer les partis, et puis après, ils ont explosé, comme d'hab. Bon, ben là, regardez les alliances auxquelles on a droit. C'est-à-dire, Olivier Faure, le patron du PS, il a été clair depuis le début. Devant les médias, il dit « Ouais, les insoumis, c'est... ils condamnent pas le Hamas. » Et en fait, il y a déjà 60 d'alliances entre des listes PS et LFI à l'échelle municipale. Donc, on est en train de comprendre que, comme d'habitude, c'est vrai que je ne révèle rien, hein, on pouvait l'observer depuis un bout de temps, mais ça me semble encore plus frappant cette année que tous ces politiciens qui passent leur journée à se crier dessus comme du poisson pourri, à dire le RN c'est des nazis, le LFI c'est Hamas, Macron il a détruit la France, tous ces gens-là officiellement jouent un spectacle. Aujourd'hui, vous avez Estrosi qui va se prostituer pour les voix de la France insoumise. Vous avez des alliances parfaitement baroques qui se mettent en place, du LFI-PS, alors que le PS nous disait que LFI, c'était le Hamas. On a du RN droite, enfin, on a de tout et n'importe quoi. Et on comprend, en tout cas dans les grandes villes, pour les grosses têtes, on comprend que tout leur cirque s'estompe, leur cirque s'arrête lorsqu'il s'agit de prendre un siège et de prendre un peu de pognon. Alors, évidemment, ça ressemble à une banalité, ce que je vous dis. Mais je trouve que c'est important de le regarder preuve à l'appui. Parce que ce genre de discours que je tiens là, on peut le démonétiser en disant bah, « Mais vous dites n'importe quoi, c'est démago, c'est démago. » Mais regardez les résultats. Alors, démago, en deux mots, c'est ce qu'ils vont chercher. Putain. Eh, Raymond DeVos, c'est pour toi. Donc, oui, c'est démago. C'est pour ça qu'ils y sont. C'est pour ça qu'ils veulent se faire élire. C'est pour démago. Donc, j'insiste, c'est très lourd cette vanne, en fait. Mais je l'aime bien. Donc, factuellement, on comprend qu'il ne faut pas se tomber dans ce piège de leur division médiatique, alors qu'à chaque élection, c'est la même chose. À chaque élection, ils sont main dans la main. Donc, ça, je le répète et j'insiste sur ce point-là, parce que ce qui m'énerve, c'est qu'on le sait, à chaque élection, c'est le cas, en dehors des présidentielles où les alliances sont très rares, on le sait et on tombe à chaque fois dans le truc. C'est-à-dire... Les législatives, quand il y a eu la NUPES puis le NFP, c'est-à-dire l'enculerie des partis de gauche pour jouer avec l'espoir des électeurs de gauche et leur dire « Regardez comme on est alliés, comme on est ensemble, et en fait, bubule », eh bien, je vous l'avais dit, à ce moment-là, on était d'accord, enfin, je vous l'avais dit, il n'y avait pas que moi, hein, il y avait plein de gens qui disaient ça de « Attention, c'est une escroquerie », eh bien, en fait, trois mois plus tard, c'était reparti. Et t'avais des mecs de gauche qui défendaient le NFP, bah, qui commençaient à taper sur LFI, qui commençaient à taper sur je sais pas quoi, et c'était reparti. En fait, l'enculerie médiatique a cela d'incroyable qu'elle parvient à se répéter et d'enrhumer toujours les mêmes gens de la même manière. Donc, c'est un truc que je trouve fou. C'est que ce que je vous dis là, je vous parie l'apéro que dans un mois... quand ils vont se lancer dans la présidentielle, ils vont continuer le diviser pour mieux régner, eh ben on me dira, oui, mais en fait, tape pas sur le RN, tape pas sur CNAFO, tape pas sur LFI, alors que vous voyez bien aujourd'hui que ces alliances de circonstances se mettent en place, qu'importe la place, qu'importe l'endroit, j'ai envie de te dire, comme chantait Céline Dion, qu'on embrasse, qu'il n'y en a peut-être plus pour longtemps. Mais je trouve ça sidérant à quel point c'est banal ce que je vous dis, à quel point c'est factuel, mais à quel point on se fait enrhumer à chaque fois. Là, les présidentielles 2027, ça va repartir. Je veux dire, CNAFO, on m'a tombé dessus, enfin on m'a tombé dessus, on s'en fout en vérité, mais les critiques que je peux faire sur ça à CNAFO, j'ai eu des commentaires de gens qui me disaient « Non, mais c'est quelqu'un qui dérange le système, t'es comme les autres, tu veux la faire taire ». Aujourd'hui, Sarah Knafo en est à se prostituer électoralement pour que Rachida Dati lui donne la main, quoi. Je veux dire, qu'émander quelque chose à Rachida Dati, faut avoir rangé son honneur bien profond, quand même. Hein, parce que l'autre, elle est mise en examen pour corruption passive, j'insiste. Donc... c'est délirant, on va pas dire ça pendant des heures, je pense que vous avez compris le message, on est peut-être pas d'accord, hein. Dites en commentaire évidemment ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi le deuxième point très important de l'analyse, c'est celui-là, c'est de comprendre que ces accords auront toujours lieu, que vous le vouliez ou non, que vous défendiez bec et ongle votre parti préféré en étant prêt à insulter d'autres gens pour les défendre, au moment des élections, il y a bubule, il n'y a plus de nazis, de pro-Hamas, de je sais pas quoi, il n'y a plus rien. Il y a des postes, des subventions publiques à aller chercher, et on y va plein badin. Donc ça me semble important. On a un troisième élément, mais là encore, qui n'est pas forcément le plus surprenant, la Macronie a encore contourné l'élection, parce qu'évidemment, ils n'ont aucun ancrage local, donc forcément, ils ont tout fait pour ne pas être là. Gabriel Attal, patron de Renaissance aujourd'hui, donc le parti présidentiel, Gabriel Attal a assumé la stratégie de ne pas aller au municipal. Donc, il faut quand même se rendre compte de la dissociation aujourd'hui entre la politique nationale et la politique locale, où vous avez le parti présidentiel qui dit « les municipales, on s'en branle ». C'est aussi ça. Pour moi, l'élément le plus intéressant dans les municipales, c'est qu'on casse les pieds à tout le monde. Tous les médias vous en parlent toute la journée, alors que ces gens-là ont accepté l'idée que les municipales, c'était un cirque pour des grosses têtes nationales. Mais ce qui se passe dans les villes de moins de 3000 habitants, tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Et la raison pour laquelle tout le monde s'en branle, et je voulais vous montrer ces chiffres-là parce que, pour prendre la mesure du phénomène. Alors, j'ai les chiffres 2020. J'ai pas les chiffres 2026 pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas encore découpé. Donc, j'ai pas réussi à trouver le découpage que je voudrais pour 2026. Je vérifie quand même. Mais non, ça y est pas encore. Donc, on va prendre 2020. Ça va être sensiblement la même chose. Regardez ces chiffres-là. Dans les communes de plus de 1000 habitants. Donc, faut savoir que les communes de moins de 1000 habitants, ça représente quand même beaucoup, beaucoup de communes. Mais là, on a celle de plus de 1000. Vous avez un tableau, et je voulais vous le montrer parce qu'il est symbolique, ce truc. Vous avez un tableau qui représente à la fin de l'élection, à la fin des élections municipales de 2020, avec un deuxième tour qui s'est tenu en 2022, si je ne dis pas de conneries, vous avez la répartition du nombre de sièges, donc le maire, les conseillers municipaux, tout ce que vous voulez. Vous avez la répartition par parti. Aujourd'hui, aux élections municipales, vous avez 30% des postes au bout du compte qui sont divers. Divers droite, divers gauche, divers centre et divers tout court. C'est-à-dire qui n'ont pas d'étiquette. Des listes aux municipales qui ne se réclament d'aucun parti national. C'est vraiment aller vous faire cuire le cul. T'as plus de 35% qui est sans étiquette. Regardez aujourd'hui en bas ce qu'on retrouve. La France Insoumise, c'était 46 sièges à la fin des élections en 2020. Les Écolos, 856. La République En Marche, 624. Le Parti Socialiste, 2569. Par rapport à divers droites, 30 557, pour vous donner un ordre de grandeur. Rassemblement National, 827. Europe Écologie Les Verts, 515. À l'échelle municipale, ces gens-là ne représentent rien. Donc aujourd'hui, ils ont complètement accepté l'idée d'enterrer les municipales et d'en faire un sketch national. D'en faire un sketch national. Hier, il y avait Raphaël Glucksmann sur le plateau de TF1. Mais qu'est-ce que tu branles là, Gluglu ? Déjà, qu'est-ce que tu branles tout court ? Alors, on ne veut pas savoir. Mais bon, la question se pose. On en est là. Donc, les municipales ont été parfaitement récupérées par le système médiatico-politique qui en fait une échéance nationale sans intérêt. Alors qu'aujourd'hui, dans les territoires de France, vous avez, par exemple, une soixantaine de communes où il n'y avait pas de liste. Il n'y a pas de maire. Il n'y a plus de maire dans une soixantaine de communes. Il faut se rendre compte du symbole. Vous avez aujourd'hui environ 20 000 municipalités où il n'y a pas de second tour, parce qu'il n'y avait qu'une seule liste. Donc, la politique municipale est en train d'être détruite, est en train de disparaître petit à petit, cachée derrière les enjeux de nos grosses têtes nationales, qui sont là pour continuer à se gaver comme des ânes, alors que sur le terrain, dans les territoires de France, il y a bubule, et il y a un véritable désintérêt, parce que politique nationale, politique municipale, ça ne veut plus dire la même chose. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire là-dessus, sur cette analyse des élections municipales, qui est à la fois pas très originale, mais je veux vraiment insister là-dessus, et je pourrais faire la même après le second tour, hein, à vrai dire, on viendra discuter qui a gagné, qui a pas gagné, ok, d'accord, mais regardons aujourd'hui ce qu'on nous sert, regardons le spectacle qu'on nous sert, et vous avez des cas qui sont hautement symboliques. Et à mon avis, on n'a pas fini de rire, on n'a pas fini de ricaner, parce que demain, ils doivent officialiser les listes, comme je vous disais, et c'est seulement demain qu'on va savoir qui fait des alliances avec qui. On en reparlera demain, normalement, on en reparlera mercredi, je pense, dans la farce tranquille déjà, dans le Juste Bistrot plus en détail. On aura les alliances plus précises, qui fait quoi avec qui. Et à mon avis, on va se fendre la gueule, et je vais radoter toute la semaine. Je vous le dis tout de suite, je vais radoter toute la semaine, parce que ça ne va faire que valider ce que je suis en train de vous dire dire là, c'est que nos partis nationaux, en vérité, n'ont pas d'ancrage locaux. Ce sont, je pense que ce sont comme des bulles financières. Et qu'à l'échelle locale, eh ben, en fait, les gens ne se réclament pas, les gens qui font de la politique ne se réclament pas de ces étiquettes. Ça n'a pas le même écho. Et je trouve ça assez effrayant de ce que ça veut dire. Et donc, je voulais vous en parler. Les amis, vous proposez l'analyse sous cet angle-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. Comme d'hab, vous me dites.